Octave Mirbeau, le Père Nicolas. Il y avait deux longues heures que nous marchions dans les champs, sous le soleil qui tombait du ciel comme une pluie de feu. La sueur ruisselait sur mon corps, et la soif, une soif ardente, me dévorait. En vain, j'avais cherché un ru, dont l'eau fraîche chante sous les feuilles, ou bien une source, comme il s'en trouve pourtant beaucoup dans le pays, d'une petite source qui dort dans sa niche de terre moussue, pareille aux niches où nichent les saints campagnards. Et je me désespérais, la langue desséchée et la gorge brûlante. Allons jusqu'à la Heurtaudière, cette ferme que vous voyez là-bas, me dit mon compagnon. Le père Nicolas nous donnera du bon lait. Nous traversâmes un large guéret dont les mottes crevaient sous nos pas en poussière rouge. Puis, ayant longé un champ d'avoine, étoilé de bleuets et de coquelicots, nous arrivâmes en un verger où des vaches, à la robe brun gelée, dormaient couchées à l'ombre des pommiers. Au bout du verger était la ferme. Il n'y avait dans la cour, formée par quatre pauvres bâtiments, aucun être vivant, sinon les poules picorant le fumier, qui, tout près de la bergerie, baignaient dans un lit immonde de purin. Après avoir inutilement essayé d'ouvrir les portes fermées et barricadées, mon compagnon dit « Sans doute que le monde est au champ !» Pourtant, il est là. « Père Nicolas ! Hé ! Père Nicolas !» Aucune voix ne répondit. « Hé ! Père Nicolas !» Ce second appel n'eut pour résultat que d'effaroucher les poules qui s'égayèrent en gloussant et en battant de l'aile. « Père Nicolas !» Très désappointé, je pensais sérieusement à aller traire moi-même les vaches du verger, quand une tête de vieille femme, revêche, ridée et toute rouge, apparut à la porte entrebâillée d'un grenier. « Qu'un ? » s'écria la paysanne. « C'est-y vous, monsieur Joseph ? Je vous avions point remis, ben sûr, tout de suite. Faites excuse et la compagnie. » Elle se montra tout à fait. Un bonnet de coton, dont la mèche était ramenée sur le front, enserrait sa tête. Une partie des épaules et le cou, qu'on eût dit de briques, tant ils avaient été cuits et recuits par le soleil, sortaient, décharnés, ravinés, des plis flottant de la chemise de grosse toile, que rattachait aux hanches un jupon court d'enfant à rayures noires et grises. Des sabots, grossièrement taillés à même le tronc d'un bouleau, servaient de chaussures à ses pieds nus, violets et gercés comme un vieux morceau de cuir. La paysanne ferma la porte du grenier, assujettit l'échelle par où l'on descendait, mais, avant de mettre le pied sur le premier barreau, elle demanda à mon compagnon. « C'est-y vous qu'avions ailé après le père Nicolas, mon homme ?»« Oui, la mère, c'est moi. » « Qu'est-ce que vous livrez au père Nicolas ?»« Il fait chaud, nous avons soif, et nous voulions lui demander une jatte de lait. »« Espérez-moi, monsieur Joseph, je vais quand vous. » Elle descendit le long de l'échelle, lentement, en faisant claquer ses sabots. « Le père Nicolas n'est donc point là ?» interrogea mon compagnon. « Faites excuse, » répondit la vieille. « Il est là, pargué si, y est, le pauvre bonhomme, pas prêt à démarrer, pour sûr. On l'a mis en bière à ce matin. » Elle était tout à fait descendue. Après s'être essuyé le front où la sueur coulait par larges gouttes, elle ajouta. « Oui, monsieur Joseph, il est mort, le père Nicolas. Ça y est arrivé hier dans la soirée. » Comme nous prenions une mine contristée, « Ça ne fait rien, rien en tout, » dit-elle. « Valez entrer vous rafraîchir un brin et vous mettre à vos thèses. Attendiment que je vais crier ce qu'il vous faut. » Elle ouvrit la porte de l'habitation, fermée à double tour. « Entrez, messieurs, et ne vous gênez point. Faites comme chez vous. Tenez, le v'là, le père Nicolas. » sous les poutres enfumées, au fond de la grande pièce sombre, entre les deux lits drapés d'indienne, sur deux chaises, était posé un cercueil de bois blanc, à demi recouvert d'une nappe de toile écrue, qu'ornait seulement le crucifix de cuivre et le rameau de buis béni. Au pied du cercueil, on avait apporté une petite table sur laquelle une chandelle, en guise de cierge, achevait de se consumer tristement, et où s'étalait un pot de terre brune, plein d'eau bénite, avec un mince balai de genêt servant d'aspergeoir. Ayant fait le signe de la croix, nous jetâmes un peu d'eau sur la bière, et sans rien dire, nous nous assîmes devant la grande table en nous regardant, ahuris. La mère Nicolas ne tarda pas à rentrer. Elle apportait avec précaution une vaste jatte de lait qu'elle déposa sur la table en disant « Vous pouvez ben en boire tout votre sou, allez, y a pas de plus bon et de plus frais. » Pendant qu'elle disposait les bols et qu'elle tirait de la huche la bonne miche de pain bis, mon compagnon lui demanda « Était-il malade depuis longtemps, le père Nicolas ?»«
Point en tout, monsieur Joseph, » répondit la vieille.
« Pour dire, depuis quelque temps, il n'était pas vaillant. Ça le tracassait dans les poumons, le sang à ce que je créais. Deux coups, il était venu blanc, puis violet, puis noir, puis il était chu, quasiment mort.
Vous n'avez donc pas été chercher le médecin ?
Ben sûr non, monsieur Joseph, que j'en point été le cri, le médecin. Pour malade, il n'était point malade pour dire. Ça ne l'empêchait point d'aller à droite, à gauche, de virer partout avec les gars. Hier, je vas au marché. Quand je reviens, v'là-t-y pas que le père Nicolas était assis, la tête contre la table, les bras ballants, et qui ne bougeait pas plus qu'une pierre.
Mon homme ! Que j'ai dit.
Rien. Père Nicolas, mon homme !
Que j'ai dit contre l'oreille.
Rien, rien, rien en tout. Alors, je le bouge comme ça. Mais v'là-t-y pas qu'il se met à branler, puis qu'il chute sur le plancher, puis qu'il reste sans seulement mouver une patte. Et noir, noir, quasiment comme du charbon. Bon sang, que je dis, le père Nicolas qu'est mort. Et il était mort, monsieur Joseph, tout à fait mort. Mais vous ne buvez point, ne vous gênez pas, j'en ai encore, allez, et puis je faisons point le beurre en ce moment.
C'est un grand malheur, dis-je.
Qu'est-ce que vous voulez ? Répondit la paysanne. C'est le bon Dieu qui le veut, bien sûr.
Vous n'avez donc personne pour le veiller ? Interrompit mon compagnon.
Et vos enfants ? Oh, il n'y a pas de danger qui s'en aille, le pauvre bonhomme. Et puis, les gars sont au champ, à rentrer les foins. Faut pas que la besogne chôme pour ça. Ça ne le ferait point revenir, dites, puisqu'il est mort.
Nous avions fini de boire notre lait. Après quelques remerciements, nous quittâmes la mère Nicolas, troublée, ne sachant pas s'il fallait admirer ou maudire cette insensibilité du paysan dans la mort. La mort qui pourtant fait japper douloureusement les chiens dans le chenil vide, et qui met comme un sanglot et comme une plainte au chant des oiseaux près des nids dévastés.